King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouskois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir M. Gilles Pellerin, qui est venu donner un atelier d'écriture intensive dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire et qui a accepté de venir nous parler de son dernier recueil de nouvelles, I carré, publié en 2012 aux éditions L'Instant Même. Suivant notre tradition, l'émission d'aujourd'hui va se diviser en trois segments. Dans un deuxième temps, nous allons donc enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Nous allons recevoir M. Julien Goyette, qui a co-écrit le livre « Taché polygraphe » en collaboration avec Claude Lacharité. Les deux auteurs vont dialoguer ensemble pour nous faire découvrir un aspect peut-être plus méconnu de Joseph-Charles Taché. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Gilles Pellerin et, pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares et l'influence de certains livres ou certains auteurs dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre une nouvelle tirée du recueil I carré et, cette fois-ci, nous aurons la chance d'entendre l'auteur lui-même nous la lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission M. Gilles Pellerin, avec honneur et bonheur. Bonjour Gilles et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors Gilles, vous persistez à écrire des nouvelles de livre en livre, hein, alors qu'on entend parfois, ben oui, c'est son premier livre, il a publié un recueil de nouvelles, mais vous récidivez. Donc, quel serait votre rapport à ce genre littéraire que vous semblez adorer?
J'allais dire que je ne suis pas capable de faire autre chose, ce qui est faux parce que j'ai fait des essais, mais pour ce qui est de la fiction, le rythme qui semble venir tout naturellement, c'est un rythme assez bref et puis il se traduit par des nouvelles. La longueur varie, l'inspiration change d'un texte à l'autre, mais de façon générale, je trouve, excusez du peu, même pour moi, c'est le plaisir de travailler sur des textes relativement brefs.
Sur la brièveté. Mm-hmm. OK. Vous pratiquez également le fantastique, un fantastique qui peut étonner des lecteurs qui sont habitués, par exemple, à lire Maupassant de prime abord, parce qu'on pourrait peut-être qualifier ce fantastique-là, je pense, de néo-fantastique. Hein. C'est un fantastique où on ne trouve pas une très grande résistance des personnages ou du narrateur, hein, par rapport à l'événement insolite qui est vécu. Ou alors l'événement insolite arrive tardivement parfois dans vos textes où on a l'impression qu'on est à la limite de l'absurde. Quel serait votre rapport à la littérature fantastique?
D'abord, pour ce qui est d'une espèce d'économie du texte, je pratique un fantastique où effectivement l'élément insolite, l'élément qui fait basculer le point de chute, le point de rupture, arrive relativement tard, mais il doit s'insérer absolument dans ce qui présente tous les détails normaux de la réalité.
Oui.
Et c'est un choix esthétique, mais je dirais aussi que c'est quelque chose qui correspond très certainement à ce que je crois être, dans la mesure où, ayant toujours été un grand rêveur, ayant été somnambule dans mes jeunes années, ayant un rapport avec la réalité qui est parfois peut-être un peu étonnant, je crois que l'un des grands plaisirs de la vie pour moi, c'est de trouver dans l'apparence banale du quotidien des éléments à caractère un petit peu irréfléchi, irrationnel, dérangeant, perturbant et parfois magique.
Ah, d'accord. Et peut-être ça va nous permettre de glisser vers notre troisième question, parce que je sais que vous avez une anecdote à nous raconter. J'aimerais qu'on parle de ces trois textes dans votre recueil de nouvelles I carré qui portent comme titre des noms d'auteurs célèbres. Hein. On en a un qui s'appelle Henri Michaud, on en a un qui s'appelle Rousseau et on en a un qui s'appelle Sartre. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ces textes-là pour écrire? Mais je pense que ça s'inscrit dans la foulée de votre deuxième réponse.
Je crois que le premier à avoir été écrit était Sartre, et tout simplement parce que ce que le texte raconte, et c'est celui que je lirai, c'est à peu près la réalité. Enfin, du moins, la première partie du texte. Et un jour, j'étais à Paris et j'ai croisé quelqu'un qui ressemblait étrangement à Jean-Paul Sartre. J'en ai fait parlais de mon petit bonheur du jour.
Oui.
Et puis je le regardais, évidemment, la première chose quand on rencontre Jean-Paul Sartre en l'an 2009, c'est de lui regarder l'œil.
Oui.
Parce qu'il y avait un œil un peu... il y avait un regard un peu bigle. Et puis l'œil était réparé.
L'œil
et à partir de ça, et je vous avoue que j'ai eu tellement de plaisir. Je me suis... Bon, à Paris, il y a quelques cafés comme ça, au moins deux ou trois.
Oui.
Et je me suis installé, puis je me suis lancé à fond là-dedans. Et selon la méthode qui est la mienne, c'est-à-dire que je ne sais jamais, à peu près jamais où un texte s'en va, j'ai commencé à relater dans mon carnet de voyage ce que j'avais vu avec ce grand bonheur. Et puis au bout de la ligne, une petite intrigue qui s'est créée toute seule.
Eh bien, c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Gilles.
Merci.
Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. Je rappelle le goût de sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que j'ai les pieds. Puis c'est bon pour ça, je l'ai la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidoo, j'ai pas de garage. La slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à pu finir. Je ferme toutes mes fenêtres puis je veux même plus sortir.
Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais belle goût de sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai les pieds. Puis c'est bien bon pour jeter la tête dans le temps des fêtes.
Rentrer chez moi. Si c'est comme ça, je me tire d'ici, vite fait, je vous le dis. L'hiver pour moi,
l'hiver pour toi.
C'est pas pour se geler les pieds ni pour se cailler les doigts. Et puis merde, je vends ma cabane au Canada.
Bon débarras! Dans le sud, c'est un maudit beau voyage.
Ah ben oui, ça c'est sûr, ça.
L'hiver est moins rude sur une plage.
Ouais, c'est évident, là, moi, jamais je te jure.
Le grand soleil à 50 cents par jour.
50 quoi?
Ça vaut la peine d'aller faire son petit tour.
Oh!
Ici Claude Lacharité, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon collègue Julien Goyette, avec qui je viens de faire paraître un ouvrage collectif intitulé « Joseph-Charles Taché et polygraphe ». Alors d'abord, bonjour Julien et bienvenue à l'émission.
Bonjour Claude.
L'abbé Casgrain a dit de Taché qu'il avait écrit on ne sait combien de brochures sur on ne sait combien de sujets. Est-ce que l'abbé exagère et est-il possible de quantifier le phénomène pour nous aider à y voir plus clair? Combien de livres Taché a-t-il publié sur combien de sujets?
Non, l'abbé ne se trompait pas. Et on peut prendre la mesure de sa production en citant quelques chiffres. Donc, une bibliographie de près de 50 titres, donc 16 œuvres littéraires, 14 rapports divers, des traductions, et ça, c'est sans compter, bien sûr, les articles de journaux. Quant au genre de publication, on le connaît, bien sûr, pour ses contes et légendes, Forestier et Voyageur, au premier chef, mais aussi les trois légendes de mon pays et l'île Saint-Barnabé. Mais il y a encore plus que ça. Alors, on peut citer parmi ses publications, notamment un important ouvrage sur les provinces canadiennes, une galerie de portraits satiriques, un ouvrage sur la fameuse bébite à patates, au chrysomel des patates, un ouvrage sur les deux sables, un ouvrage important aussi sur une brochure importante sur la tenure seigneuriale et plusieurs rapports sur des questions comme le choléra et le pilotage sur le Saint-Laurent. Alors, on le voit bien, aussi bien sous l'aspect quantitatif que qualitatif, on peut voir en Joseph-Charles Taché un authentique écrivain polygraphe.
Mais alors justement, qu'est-ce que c'est que la polygraphie, puis qu'est-ce qu'on découvre de nouveau à propos justement de Taché polygraphe dans cet ouvrage?
Le terme de polygraphie renvoie évidemment au fait de pratiquer plusieurs genres d'écriture à la fois, ce qui est le cas de Taché, comme on vient de le voir, mais la polygraphie, à mon sens, c'est plus et autre chose qu'une manière de décrire la diversité. C'est une manière aussi de comprendre l'unité, non pas tant l'unité de l'œuvre, mais bien celle de l'écrivain. On peut bien sûr considérer, voir la manie de tâcher de toucher à tous les genres comme étant, disons, la preuve de l'inachèvement du champ littéraire intellectuel et intellectuel au Canada français au 19e siècle. On peut dire donc que Taché a touché à tout, à défaut d'avoir pu se consacrer entièrement à un seul genre, le roman ou l'essai, par exemple. Mais on peut aussi, et c'est ce que je préfère, y voir le signe d'une culture et d'un tempérament. Autrement dit, on peut considérer la polygraphie de Taché non pas comme un acte contraint, forcé, mais plutôt comme un acte volontaire. Et on verra notamment la preuve de ce que j'affirme dans la bibliothèque même de Taché, donc qui l'a cédé à l'Institut littéraire, mais dont on peut quand même se faire un aperçu grâce à un catalogue conservé aux archives de l'Université Laval. Et dans ce répertoire, on voit bien que, avant même d'écrire sur toutes sortes de sujets, Taché s'est intéressé notamment à l'agriculture, à l'industrie. Et donc, ça veut dire que Taché cultivait cet esprit touche à tout qui est devenu le sien. C'est pas seulement par la force des choses, par les emplois notamment qu'il occupait, qu'il est devenu polygraphe, mais que chez lui, en fait, la polygraphie est un acte prémédité.
Oui. Et puis, en plus, on a la chance d'être ici au Centre Taché. Dans la dernière capsule littéraire de l'émission, on avait parlé du Centre Taché et la collection de livres qui est conservée ici, c'est celle du Grand Séminaire de Rimouski, mais dont l'origine, en fait, hein, se confond avec l'Institut littéraire de Rimouski, fondé en avril 1855 par Taché, justement. Alors, dans votre propre article de cet ouvrage collectif, vous vous intéressez au lien entre légende et histoire chez Taché. Pourquoi?
Alors, en lisant Taché et surtout ses œuvres littéraires, mais pas seulement, j'ai été étonné du rapport que Taché établit entre l'histoire et la légende. Taché, c'était un polémiste, notamment. En fait, c'est un polémiste redoutable. Et aussi, il n'a pas choisi le genre des contes et légendes uniquement pour faire mémoire, pour raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées, comme le dit le mot de Charles Nodier que Taché fait mettre en épigraphe des soirées canadiennes. En fait, son choix des contes et légendes est un choix, je dirais, philosophique et même politique, puisque c'est une protestation. C'est une protestation contre une modernité qu'en bon ultramontain, il condamne sur plusieurs aspects. Donc, raconter des histoires du peuple, de son peuple catholique et français, avant qu'elles soient oubliées, c'est donc, en quelque sorte, réenchanter le monde face à une modernité. C'est rappeler ou réaffirmer, voudrait mieux dire, la supériorité du spirituel sur le matériel, la supériorité des causes transcendantes sur les causes immanentes. Alors habituellement, on dira, un peu selon la formule du sociologue Maurice Halva, que l'histoire commence là où finit la mémoire, où se décompose la mémoire. Chez Taché, c'est tout à fait différent, puisque chez lui, la légende est à la fois au début et à la fin de l'histoire. Elle la précède et la prolonge, et c'est grâce à elle, et surtout grâce à la morale qu'elle contient, que les histoires reçoivent leur sens et leur vérité globale.
Bien, je vous remercie, Julien Goyette.
Ça fait un plaisir.
Et je rappelle simplement que l'ouvrage s'intitule « Joseph-Charles Taché, polygraphe » et a été publié aux presses de l'Université Laval en 2013.
Nous sommes de retour avec Gilles Pellerin pour le troisième segment de notre émission. Gilles, si vous deviez identifier deux ou trois auteurs marquants ou deux ou trois livres marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lecteur et ou d'écrivain, quels seraient-ils?
C'est une question qui appelle des réponses paradoxales, dans la mesure où il y a un écrivain qui, à mon point de vue, a été le plus important, le plus déterminant pour moi, et c'est un écrivain que je n'ai pas lu depuis plus de 25 ans. Ah, c'est Julio Cortázar, un écrivain argentin, qu'on classe dans le réalisme magique. Et pourquoi je ne lis pas, c'est qu'à chaque fois que je lisais Cortázar, j'étais démoli pendant 6 mois, j'étais plus capable d'écrire. J'arrivais à faire mon épicerie, c'est à peu près tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une telle virtuosité chez lui, il y a... Cortázar m'atteignait tellement, au-delà de la virtuosité, il me touchait dans mes fibres et puis j'avais l'impression d'être un bec, d'être un analphabète. Mais j'ai découvert, une vingtaine d'années plus tard, alors que je préparais le Festival Borges à Québec, et tout le monde a toujours pensé que j'étais borgésien, alors qu'en fait, je n'avais jamais... je n'ai jamais aimé Borges avant...
Ah bon?
Je n'aimais pas ça. Je le trouvais froid, vertigineux. Et puis, en lisant, donc j'ai à peu près tout lu Borges il y a quelques années, et là, ça a été le choc, parce que je me suis rendu compte que cet écrivain que je n'aimais pas était probablement celui qui avait eu le plus d'influence sur mon travail. J'étais... j'étais sidéré. Mmh. Sidéré de voir comment les traits sur lesquels il me semble que j'étais passé si vite, c'était au contraire si profondément ancré en moi. Mais il m'arrive maintenant de retourner à mes premières amours. Mon premier écrivain préféré quand j'étais adolescent, ça a été Guy de Maupassant.
Ah oui, bon.
Ouais, et récemment, je sens que je vais être prêt maintenant à relire Maupassant parce que récemment, je me suis rendu compte que c'était un sacré styliste.
Ah ben.
Le sens du rythme chez lui m'émerveille et j'aimerais ça pouvoir être comme lui. Mais sinon, Bertrand Bergeron est un idéal Italo Calvino.
D'accord, merci beaucoup. En contrepartie, Gilles, si on est un peu curieux, quelles seraient les œuvres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Gilles Pellerin?
J'ai réfléchi longuement parce que vous m'aviez prévenu et finalement, je me suis rendu compte que ce qui surprend le plus les gens quand ils regardent dans la bibliothèque chez nous, c'est de voir des livres de baseball.
Ah bon?
J'ai notamment un livre fait en forme de balle de baseball qui est une espèce de jeu question-réponse. Quel est l'auteur de la partie 100 points du coup sûr en 1923? Et j'ai des romans de baseball. Je suis fou de baseball et je me suis rendu compte qu'il y avait entre le baseball et la littérature un lien ténu, peut-être fragile, que nous sommes quand même plusieurs à retrouver. Et le baseball me stimule énormément. Donc, il y a des livres de baseball que je n'ai pas lus depuis 25 ans, mais qui ont l'avantage d'être situés juste en face de l'endroit où je travaille.
Bon.
Et je me dis quand même qu'écrire un livre, c'est une belle partie.
Enfin, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'importance de la lecture dans la formation d'un écrivain, parce que vous êtes ici dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire pour former pendant une semaine la relève littéraire en quelque sorte, ou des gens qui pourraient faire partie de la relève littéraire. Et on entend toutes sortes de choses à propos de la lecture. Vous, quelle est votre posture? C'est important de lire quand on veut écrire?
C'est indispensable. Je disais ce matin même à mes étudiants qu'ils ne devaient pas être gênés de retrouver autant de stimuli dans un livre que dans la réalité, parce que le livre, soit dit en passant, fait partie de la réalité.
Ouais.
Les personnages qu'on rencontre dans les livres sont parfois autant nos amis que certaines des personnes qu'on côtoie. Moi, j'ai des amis extraordinaires dans la littérature qui sont morts il y a 2 siècles et qui vont m'accompagner jusqu'à la fin, ou des gens qui m'ont permis de me découvrir. Il s'agit juste de voir comment l'interpénétration se fait entre le monde auquel on emprunte et celui que l'on va rendre. Et il y a moyen de faire des parcours, je pense, qui sont très touchants et qui sont en même temps, la nouvelle marque de l'immense reconnaissance que moi, je porte à tous les écrivains passé, présent. Et comme je suis borgésien, mais je remercie déjà les écrivains futurs.
Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Gilles.
Je vous en prie. Sartre. Jean-Paul Sartre vient parfois traîner son palan à Paris, non loin du carrefour où il jouait au camelot de la cause du peuple. Là où il est maintenant, on lui a refait un œil tout neuf. Quand on lui a montré le résultat devant une glace, il a été pris de coquetterie. Ce ne serait pas trop demandé qu'on me teigne les cheveux, qu'on me les pâlisse. On lui donnerait 10 ans, 100 ans de moins. Il s'abstient de fréquenter les cafés qu'il a hantés jadis. Il ne peut toutefois s'empêcher d'aller musarder rive gauche devant les étals des bouquinistes, à l'heure où il s'apprête à fermer, question de profiter des aubaines de la fin du jour. Discrètement, il reluque les prix qu'on pratique sur ses livres. Sa cote est basse. Les boîtes refermées sont tapissées de tags. J'aimerais connaître son opinion à leur sujet, mais il la garde pour lui. Une bouquiniste qui a reconnu en lui un flâneur attentif comme elle les aime, le salue au moment où sa canne le ramène chez lui, quelque part dans la nuit naissante où j'ai toujours renoncé à le suivre, par discrétion, par respect aussi, je crois. Un jour, je l'ai vu assis dans un parc ombragé, affichant son teint d'homme qui se couche tôt, sans la moindre considération pour une vieille dame qui octait de la jambe à deux pas de lui. Elle longe la place sur le banc, mais il la garde pour lui, plus précieuse qu'un fauteuil de l'Académie française. Ce midi, c'est dans un bistrot des bords de Seine que j'aperçois sa dégaine, la bouquiniste à ses côtés. Ils prennent un canon, l'œil pétillant. On lui donnerait 10 ans, 100 ans de plus du temps où il draguait impénitent des filles dont il aurait pu être l'ancêtre. En face d'eux, un jeune coq que ce tableau a allumé, une jeune et un vieux. Il est récent, moderne, ardent, tout neuf. Il a des principes et une convoitise. La bouquiniste devrait être à lui. Et tant pis si pour cela il faut se mettre à la lecture. Sartre reconnaît les singeries du dernier modèle pour les avoir déjà faites. Un moment, il se dit qu'on ne revient pas sur son passé, que l'époque où il séduisait les jeunes femmes est révolue. La bouquiniste ne paraît pas de cet avis. Aussi, il la garde pour lui.
Merci beaucoup, Gilles Pellerin, d'être passé dans nos studios. J'aimerais également remercier mes collaborateurs qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Au plaisir de vous reparler le mois prochain.
Parking Nomade.